Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il y avait du monde ce matin à 8h30 au Sénat à Paris. Beaucoup de monde même pour accueillir Alexandre Benalla. Après avoir dû s'y résoudre, l'ancien chargé de mission de l'Élysée s'est finalement présenté devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire qui porte son nom. Affaire sur laquelle tout a pourtant été dit, c'est du moins ce que répète l'exécutif depuis la rentrée. Le sujet n'a finalement pas été totalement épuisé, manifestement. Il a notamment entraîné ces derniers jours des discussions sur la séparation des pouvoirs dans la Constitution, autant que sur le rôle exact d'Alexandre Benalla à l'Élysée. L'affaire Benalla est-elle terminée ou peut-elle rebondir et jusqu'où? Ce sont quelques-unes des questions du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités sont avec nous en studio. Jean-Philippe de Rosier, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille, auteur de l'ouvrage « L'initiative de la loi », c'est chez LexisNexis, et auteur du blog « La Constitution décodée ». Et Bélir Nabli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Est-Créteil et auteur de « La République du soupçon ». C'est aux éditions du CERF. Il y a deux volets dans l'affaire Benalla, au moins. Le volet judiciaire, dans lequel Alexandre Benalla est mis en examen pour violence en réunion, après avoir rudoyé des manifestants le 1er mai dernier. L'instruction suit son cours selon le temps judiciaire. Et il y a un volet politique ou politico-médiatique qui consiste à rechercher quel était le rôle exact d'Alexandre Benalla à l'Élysée. C'est ce que fait le Sénat et qui entre manifestement en contradiction avec le calendrier et les objectifs de l'exécutif. Ce volet a connu ce matin donc un moment fort avec l'audition d'Alexandre Benalla. Messieurs, cette audition a-t-elle répondu aux attentes? A-t-elle mis un terme à l'affaire? Jean-Philippe de Rosier.
Moi, depuis l'affaire, dont ainsi que vous l'appelez, l'affaire Benalla, peut-être l'affaire Benalla-Macron, j'ai l'impression d'être plongé dans ce tableau qui est très parlant, ce tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas une affaire d'État. Hein, parce que c'est effectivement un individu qui a commis un certain nombre de faits le 1er mai, qui manifestement pourrait bien constituer des infractions. Bon, ceci n'est pas une affaire d'État. Mais plus on avance dans le débat, plus on avance dans l'enquête parlementaire, plus ça constitue quand même vachement la représentation d'une affaire d'État. C'est-à-dire quelque chose qui cache effectivement un certain nombre d'éléments dont on n'a pas tout à fait connaissance. Parce que sinon, pourquoi, s'il s'agissait vraiment d'une tempête dans un verre d'eau, s'il s'agissait vraiment d'une affaire d'été, pourquoi Monsieur Castaner aurait eu les propos qu'il a tenus sur la commission d'enquête? Pourquoi la garde des Sceaux aurait eu les propos qu'elle a tenus sur la séparation des pouvoirs? Pourquoi le président de la République, Emmanuel Macron, aurait-il décroché son téléphone pour appeler Gérard Larcher? Ça, sur le principe, ça pose pas de problème. Il se parle certainement assez souvent. Mais pour lui demander que la commission d'enquête n'outrepasse pas ses pourvoirs, c'est assez surprenant, pour ne pas dire inédit. Et vraisemblablement, il y a quelque chose de plus profond derrière tout cela. Sinon, il n'y aurait pas toute cette agitation au sommet de l'exécutif.
On va reparler de tous les éléments que vous avez évoqués. Bélir Nabli, qu'est-ce que vous pensez de cette audition de ce matin? Est-ce que c'est une manière de clore le débat ou c'est une manière de le relancer?
Je pense pas qu'on puisse clore le débat. Et d'ailleurs, le sentiment qui prévaut aujourd'hui, c'est une forme de frustration assez diffuse, et une frustration légitime d'une certaine manière, parce qu'on aura peut-être jamais le fin mot de l'histoire. Peut-être à cause des vrais enjeux qui sont plus ou moins masqués, mais aussi à cause de réalités à la fois juridiques et constitutionnelles et institutionnelles, dans la mesure où le principal responsable, puisqu'il s'est qualifié comme tel, à savoir le président Macron, et dans le même temps protégé par la Constitution en principe, puisqu'il est constitutionnellement irresponsable. On pourra peut-être revenir sur ce
président de la République.
Exactement, mais avec une petite nuance sur laquelle on pourra peut-être revenir par la suite. Mais c'est cette tension-là ou ce paradoxe qui nourrit également la frustration. Le principal acteur, finalement, reste plus ou moins protégé. Il intervient dans le débat lorsqu'il décide d'intervenir. Il a cette possibilité d'échapper au débat lorsqu'il, finalement, décide d'opter pour le silence. Et finalement, ce jeu-là, il ne le maîtrise plus. La séquence lui échappe plus ou moins. Et finalement, on se retrouve dans une situation où, face à une éventuelle affaire d'État, nous n'avons qu'un un Alexandre Benalla pour répondre de ses actes. Il y a là un décalage, une tension et une frustration qui perdurent. Et finalement, je ne vois pas très bien quel acte en tant que tel pourrait clore ce débat ou cette situation.
Oui, c'est un sparadrap, un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Vous le disiez, Jean-Philippe de Rosier, depuis plusieurs jours, l'exécutif de multiples ministres met en cause le rôle du Sénat au nom de la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est de la pression, tout simplement ?
Je crois que l'exécutif cherche à mettre une certaine pression sur le Sénat pour le délégitimer, pour délégitimer la commission d'enquête, pour lui faire passer le mauvais rôle. Et je crois que ça se conclut un petit peu par l'arroseur arrosé, parce que celui qui a le mauvais rôle dans l'histoire, ça revient sur l'exécutif. Philippe Bas mène sa commission avec une très grande sérénité, et on l'a vu encore ce matin, l'audition de M. Benalla s'est déroulée dans un calme olympien. Philippe Bas défend l'institution qu'il préside.
Philippe Bas, c'est le président de la commission des lois, de
la commission des lois, qui est transformée, pour l'affaire Benalla, en commission d'enquête. Je raccourcis un tout petit peu, mais pour ne pas rentrer dans trop de détails et rester simple. Et donc, ceux qui cherchent à délégitimer le Sénat, en réalité, se retrouvent eux-mêmes décrédibilisés parce qu'ils font une lecture erronée des textes et des missions. La commission d'enquête n'empiète en rien sur le pouvoir judiciaire, car elle ne pose aucune question qui relève de l'enquête judiciaire. Et ce matin, lorsque M. Benalla a été auditionné, il a pu répondre à toutes ou à la quasi-totalité des questions, parce que justement ça ne concernait pas l'enquête judiciaire dont il fait l'objet.
Bédier Nabli, est-ce que l'exécutif entretient un feuilleton dont il voudrait voir la fin, paradoxalement ?
Oui, d'une certaine manière, mais je vais vous répondre en rebondissant sur ce qui vient d'être dit, puisque effectivement, au-delà du débat autour de la séparation des pouvoirs, en fait, on se rend compte que la majorité au pouvoir ne saisit pas vraiment l'idée de contre-pouvoir, ou du moins l'inclut pas dans sa conception du jeu démocratique. Premièrement, je renvoie ici finalement à la manière dont la commission d'enquête a été neutralisée à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, la manière dont
là,
la commission...
Là, il y a une majorité La République En Marche.
Oui, voilà. Et qui a pu, donc, du fait de sa situation majoritaire, neutraliser l'action ou le pouvoir de cette commission. Deuxièmement, le mépris et la défiance à l'égard de la commission d'enquête du Sénat. Et enfin, faut-il le rappeler, une défiance à l'égard de la presse. Parce que dans la bouche même du président de la République, on a entendu, finalement, une mise en cause directe, explicite, du rôle de la presse dans cette affaire. Donc, plus généralement, au-delà même du principe de séparation des pouvoirs qui aurait été bafoué du fait de cette audition, il y a là l'expression, la manifestation d'un problème plus profond du rapport du pouvoir actuel avec l'exercice ou la mobilisation des contre-pouvoirs. C'est d'autant plus intéressant que ces contre-pouvoirs étaient plus ou moins amorphes depuis le début du quinquennat. L'opposition parlementaire n'existait pas ou presque. Et elle a pu se remobiliser et faire la démonstration de son existence même sur le plan politique. Et on a découvert, pour un certain nombre d'entre nous, je m'inclus pas forcément, mais en tout cas, le Sénat existe encore sous la Ve République.
Ça, oui.
Et il a démontré, finalement, sa propre légitimité institutionnelle et politique.
Il joue parfaitement son rôle. Le Sénat a toujours été une chambre d'opposition. Alors, généralement, plutôt sur le débat législatif. Et là, il est une chambre d'opposition dans le contrôle. Il joue parfaitement son rôle de contrôle parlementaire en enquêtant, en investiguant sur le fonctionnement de l'État, ce qui relève parfaitement des compétences d'un Parlement, représenter, légiférer, contrôler. Et le Sénat, où il y a une majorité qui n'est pas favorable à la majorité gouvernementale et à Emmanuel Macron, puisque la majorité sénatoriale est les Républicains, qu'il existe un groupe LREM au Sénat, mais qui est assez petit, un peu plus d'une vingtaine de sénateurs, sur 348. Et donc, il joue parfaitement son rôle de contrôle parlementaire, de contrôle politique. Et l'enquête qui est menée au sein de cette commission des lois est une enquête politique qui se distingue, encore une fois, de l'enquête judiciaire.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le Sénat, finalement, ne se défend pas dans cette affaire ? Le parti présidentiel, vous le disiez, n'est pas majoritaire. Il y a un groupe assez minoritaire. Est-ce que c'est ça qui gêne l'exécutif ? D'ailleurs, c'est pas une nouveauté. Hein, d'ailleurs, c'est arrivé au général de Gaulle aussi, Bernard Nabli.
Alors, l'analogie avec le général de Gaulle est d'autant plus intéressante qu'on a eu droit à un coup de téléphone direct du président de la République en direction du président du Sénat. Donc,
Gérard Larcher.
Deux principales autorités de l'État sur le plan du protocole, en tous les cas, pour traiter de cette affaire et, pour tout dire, d'un désaccord sur le fond, sur la légitimité de l'action de la commission d'enquête. Donc, il y a bien derrière cette affaire le début ou l'apparence d'une crise institutionnelle. Hein, qui, et pour le coup, qui rejoint votre question préalable sur le fait que l'exécutif entretenait la crise. Parce que finalement, c'est un certain nombre d'acteurs de la majorité qui finalement a entretenu le côté un peu tragique sur le plan politique, en tous les cas, de cette affaire. Preuve en est ce coup de téléphone assez... non pas sans précédent, mais qui fait tâche quand même l'ordre institutionnel de la Ve République, parce que finalement, on pourrait aussi évoquer le principe de séparation des pouvoirs, comme d'autres l'ont fait.
On va en reparler, bien sûr, effectivement.
Autre élément, c'est le président du groupe La République En Marche, le président du parti, M. Castaner, qui a également évoqué l'idée suivant laquelle la commission d'enquête au Sénat finalement poursuivrait un dessein particulier qui serait la destitution du président de la République. Personne n'en avait parlé sur le plan politique jusqu'ici, certains commentateurs, certaines figures de la doctrine constitutionnelle, mais là tout d'un coup on a un acteur de la majorité qui tout d'un coup met en avant cette idée et qui... cristallise ou place le curseur encore un peu plus haut.
C'est ce que vous disiez, Jean-Philippe de Rosier, ces interventions nombreuses et ces petites gaffes, on peut le dire, pour ce qui est présenté comme une non-affaire, ne tendent-elles pas à démontrer au contraire que l'affaire Benalla est plus importante que ce qui est dit ? Ça entretient le soupçon qu'il y a quelque chose de plus important derrière.
Tout à fait, et encore pas plus tard que ce matin à l'issue du Conseil des ministres, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui rappelle à Philippe Bas, toujours ce président de la commission des lois, à de la déontologie. On peut sans doute reprocher un certain nombre de choses à Monsieur Bas. S'il y a une chose que l'on ne peut pas lui reprocher, c'est de ne pas mener son travail actuel avec déontologie, avec sérénité.
C'est quelqu'un qui respecte les règles.
Et qui, effectivement, respecte les règles, d'autant plus qu'il connaît à peu près comment fonctionne la Maison Élysée pour avoir été lui-même secrétaire général de la présidence de la République il y a de cela plusieurs années. Donc c'est ce que je soulignais en début de notre débat et d'émission. Vraisemblablement il y a quelque chose de plus profond, car si c'était effectivement une non-affaire, si Monsieur Benalla était effectivement un voyou, je cite Monsieur Castaner, si effectivement c'était une tempête dans un verre d'eau, je cite Monsieur Macron, eh bien il dirait que tout cela se fasse et puis ils verront bien que ça ne mène nulle part. Visiblement ils veulent l'arrêter, c'est donc que ça ne mène pas nulle part et que ça pourrait bien mener quelque chose. Si vous me permettez, j'ajoute juste un point, c'est que cette affaire révèle tout de même quelque chose de plus fondamental déjà, c'est qu'un Parlement, ça sert à quelque chose. Qu'un Sénat et des sénateurs, ça sert à quelque chose. Et qu'ils ne sont pas là juste pour se tourner les pouces et attendre que ça se passe pendant 5 ou 6 ans, en fonction de si on est à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais ils exercent une vraie mission, une vraie fonction. Certes, on sait qu'ils faisaient la loi, mais ils peuvent aussi pointer du doigt et de leurs institutions, le fonctionnement justement du pouvoir et appeler à leur responsabilité les responsables politiques.
Belir Nabli, est-ce qu'on est en train d'entretenir ce que vous appelez la République du soupçon ?
Alors, incontestablement, l'essai est paru avant l'affaire Benalla, mais c'est une illustration rêvée presque. On est dans la caricature de ce qui est mis en avant, de l'idée qui est mise en avant, à savoir que finalement... Donc, pour comprendre vraiment la dimension de cette affaire, on ne peut pas la résumer précisément aux premières images qui l'ont révélée. C'est-à-dire, si ce n'est pas une affaire de police ou de maintien de l'ordre. C'est vraiment le produit finalement d'un dysfonctionnement de l'appareil d'État à cause de la nature politique de notre régime qui permet finalement, grâce à la verticalité qui est promue par le président de la République, mais qui permet aussi des abus de pouvoir dès lors que certains... précisément du fait de leur proximité avec le pouvoir, pensent pouvoir se départir des règles de l'État de droit. Oui. Et c'est là aussi l'un des enjeux fondamentaux de cette affaire. C'est précisément les risques liberticides que fait courir la nature de notre régime dès lors que on admet finalement son caractère monarchique, même s'il s'agit d'une monarchie républicaine, avec finalement ce type de dérive.
C'est vrai qu'Alexandre Benalla donne peut-être l'impression d'avoir un sentiment d'impunité, hein, vu de l'extérieur. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Bernard Nabli, pour vous demander si l'équipe restreinte qui a conquis l'Élysée n'est pas en train de se heurter à ce qu'aux États-Unis on appelle l'état profond, le deep state, les institutions, les corps intermédiaires. Est-ce que un commando ou une start-up est adapté pour diriger la République, Jean-Philippe de Rosier?
Certainement pas. Et j'ai toujours défendu l'idée, à rebours d'un certain nombre de mes collègues et même amis politiques, j'ai toujours défendu l'idée que la politique c'est un métier. Ça ne veut pas dire qu'il est inaccessible pour certains, mais ça veut dire qu'à l'instar de tout métier, il doit être appris et qu'il est le fruit de l'expérience. Et c'est pour ça que je n'accueille pas, c'est un autre débat, d'un regard très favorable, la limitation dans le temps du cumul des mandats. Effectivement, il y a eu un profond renouvellement de toute la classe politique qui a été vu comme une bouffée d'air frais par l'opinion publique. Parfois, ça fait du bien. Parfois, quand la bouffée d'air est une véritable bourrasque, eh bien, ça peut causer des dégâts. Et peut-être que là, effectivement, on s'en rend compte.
Le deep state, Bernard Nabli, ça existe en France? L'état profond?
Alors, c'est plus que cela, parce qu'il ne s'agit pas de reprendre une expression qui s'inscrit dans un contexte particulier,
oui,
qui est américain. On a un état particulier en France. On est un pays de culture étatique, pour pas dire étatiste. Donc forcément, l'État, c'est quelque chose. Il incarne l'intérêt général, précisément, qui ne doit pas se confondre avec des intérêts particuliers, y compris ceux de ceux qui nous gouvernent. Donc il faut, et cette affaire est très intéressante sur ce plan-là, dans la mesure où il ne faut pas confondre finalement ceux qui nous représentent et l'État lui-même. Ils ne sont pas le souverain ou la souveraineté. Ils sont ceux qui ont finalement le privilège de nous représenter. Et cette confusion-là, elle est peut-être assurée par certains. Autre élément, c'est aussi à travers cette affaire, peut-être le procès de cette idée d'État start-up, dont on ne sait pas très bien ce qu'il signifie, mais on avait quand même compris qu'il y avait à travers cette idée-là, finalement, une forme de non-formalisme. On a compris, notamment à travers l'audition de ce matin, que, voilà, dans les relations au sein de l'Élysée, il y avait une part d'informel, ce qui peut se comprendre humainement, mais dans un appareil d'État, ça peut créer, et en particulier lorsqu'il s'agit du sommet de l'État, ça peut créer des dysfonctionnements avec des conséquences graves qu'on n'a pas pu imaginer. On a là un exemple parfait. Et donc l'État start-up, c'est aussi un État qui est susceptible de produire de telles affaires.
Est-ce que le Sénat est en train de lutter contre le projet de réforme constitutionnelle qui est d'ailleurs suspendu et qui réduit le nombre de parlementaires et dans lequel il a été question de limiter le droit d'amendement? Est-ce qu'il y a une petite lutte constitutionnelle comme ça?
Moi, je pense que le projet de loi constitutionnelle n'a pas seulement été suspendu, il a été définitivement enterré.
On nous dit qu'il va revenir. Hein.
Oui, on nous dit. Et moi, j'attends de voir. Il est désormais définitivement associé à l'affaire Benalla. Donc il le véhiculera. Il faut qu'il revienne et qu'il soit repris à l'Assemblée nationale d'abord. Il n'y aura vraisemblablement désormais plus d'accord avec le Sénat, puisqu'il y a une hostilité entre le Sénat et la présidence de la République. Toute révision constitutionnelle qui aboutit est un cadeau fait au président de la République, parce que c'est lui qui en est l'initiative, c'est lui qui la porte. Donc il faut aller dans cette direction-là. Et donc je pense que ce projet de loi constitutionnelle, en plus, tend à diminuer le Parlement. Et là, on voit à quel point il est indispensable. Donc, il est, à mon sens, définitivement enterré.
On a fini. Je suis désolé, Bélier Nabli.
Juste un mot pour dire que cette perspective est réaliste. Mais en même temps, on pourrait sortir par le haut de cette affaire en bouleversant la donne de cette réforme constitutionnelle, précisément en intégrant certaines conclusions de l'affaire Benalla.
Merci Bélier Nabli, merci Jean-Philippe de Rosier d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Déborah Lopage à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Hélène Avril, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur le site de RFI et sur les applis mobiles. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.